C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Salut tout le monde! Autre émission de Ça tient la route. On achève le mois de février, mon cher Alain.
C'est vrai, ça sent bien.
Ça sent bon, le mois de mars.
J'ai un peu hâte au début mars, moi, je vais dire, franchement.
J'ai lu ça ce matin, on a gagné 2h09 de soleil depuis le 21 décembre.
Ah!
Quand même, hein? Fait qu'on s'en va du bon côté. J'espère qu'on va arrêter qu'il fasse chaud-froid, là, parce que... On est sur la glace depuis le début de la semaine. C'est un peu emmerdant. Ça fait difficile pour des essais d'hiver. J'ai essayé de prendre des photos de mon véhicule de presse cette semaine. Aïe, aïe, aïe.
Ben, c'est vraiment une belle glace. Ça fait un miroir. C'est pas un effet. En tout cas, c'est sûr. Quand même.
Mais bon. Cela dit, pendant l'émission, évidemment, on va avoir nos essais routiers. Toi, tu nous parles de quoi cette semaine en essais routiers?
J'ai un véhicule qui m'a vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé l'essayer. Malheureusement, j'ai absolument pas les revenus pour me l'offrir. Et pourtant, c'est le BMW X3 édition M40i, qui est une version M.
Oui,
donc,
oui,
M pour pas achetable.
En fait, c'est dans la catégorie M Performance, qui est comme un entre-deux entre le modèle régulier et les vrais modèles M, là, qui sont vraiment hors de prix, là.
Ouais, qui sont des
machines
pour la course,
de guerre, là.
Quasiment, ouais.
Moi, je dis toujours aux gens, c'est de valeur que vous n'ayez pas l'autobahn près de chez vous, parce que vous pourriez vraiment voir ce que ça peut faire. Alors qu'ici, on est toujours frustré. Mais c'est vrai qu'en conduite, c'est un modèle absolument génial. Moi, j'en ai deux cette semaine et je voulais pas aller dans ta table parce que j'ai en essai le Porsche Cayenne e-Hybrid,
oui,
qui est vraiment une belle bagnole.
Oui.
Mais je vais prendre le Lincoln Corsair Grand Touring PHEV, qui est aussi branchable.
Oui.
On va parler de lui aujourd'hui. Puis je vais même avoir un petit édito sur les véhicules hybrides branchables. Parce que ça, j'en avais deux cette semaine, puis j'ai pu faire des constatations intéressantes. On va avoir comme invité Benoît Bellan, qui est chez Auto Hebdo. C'est eux qui ont sorti la fameuse nouvelle que les prix moyens des véhicules neufs étaient à plus de 50 000 $ au Canada et à plus de 34 000 $ pour les véhicules d'occasion, 33 000 et des poussins. On va parler de ça, mais on va surtout parler que malgré le prix de l'essence, là, qui, avec l'invasion de l'Ukraine, tenez-vous bien là-dessus, mesdames, messieurs, ça va lever de terre.
Mm-hmm.
Mais avec l'invasion de l'Ukraine, évidemment, le prix de l'essence va monter. Mais malgré ça, les gens continuent d'acheter beaucoup de VUS, beaucoup de gros véhicules. Et pourquoi?
C'est une excellente question.
Alors, on va tenter de répondre à cette question-là avec notre invité. Évidemment, on commence à chaque semaine avec les petites nouvelles. Qu'est-ce que tu as au menu, mon cher Alain?
Ben, écoute, parlant de prix de voitures neuves, usagées ou ainsi de suite, moi, je vous invite à vous méfier encore un peu plus, et c'est évident, là, du prix que les concessionnaires vous proposent parce qu'ils peuvent être gonflés.
Ouais, et on est chanceux ici parce que la loi de la protection du consommateur interdit les concessionnaires automobiles de vendre plus cher que le prix de détail suggéré du manufacturier.
Exact. Mais, de toute façon, il existe une loi plus vieille encore que celle-là, qui est la bonne vieille loi de l'offre et de la demande, et elle est complètement déformée ces jours-ci là, par la pénurie pièces qui touche à peu près tous les secteurs de consommation, évidemment, mais surtout et particulièrement celui de l'automobile. Et il y a des concessionnaires, évidemment, qui ne se gênent pas pour gonfler plus que substantiellement le prix de leur véhicule. Écoute, on a parlé la semaine dernière du prix d'entrée du Kia EV6, le nouveau véhicule électrique de Kia.
44 995, je pense.
Justement, et on se réjouissait, et on a tout à fait raison de le faire, qu'il se conforme aux critères là, de l'aide fédérale à l'achat. Mais j'ai aussi vu, quelques jours après, un Kia EV6 vendu par un concessionnaire Kia aux États-Unis pour la coquette somme de 78 000 $ américains.
Et il faut préciser qu'aux États-Unis, on n'a pas à respecter la loi du prix de détail suggéré.
Il n'y a pas de telle loi, non, effectivement.
Et on se prend une cote, ce qu'on appelle en bon américain un markup.
Généreux markup, effectivement.
On a généralement le prix du véhicule et vous avez en bas dealer's markup.
Voilà.
Et ça peut être 10, 20. Il y a un RAV4 Prime qui s'est vendu 97 000 $ mesdames, messieurs.
Voilà.
Il y avait 40 000 $ Bon, est-ce que quelqu'un l'a acheté?
Ben écoute, là, ça, c'est le reste de l'histoire,
si
effectivement.
Si tu trouves un pigeon pour acheter ça, tu dis, bon, ben, c'est correct. On va le vendre ce prix-là, quelqu'un va l'acheter.
Ouais. Et de façon générale, là, c'est pas spécifique à une marque ou à un produit.
Non.
Aux États-Unis, le groupe Hyundai entier, ça comprend la marque Genesis, le véhicule de luxe, a dû aviser ses concessionnaires, justement, la semaine dernière, de respecter un peu plus le prix suggéré du fabricant, car la situation commence à affecter la marque au complet, l'image de la marque au complet. Le site Edmunds, qui est un site américain spécialisé, a mené une petite enquête aux États-Unis. Ils le font en fait à chaque année. Ils ont découvert qu'au mois de janvier dernier, 82% des acheteurs aux États-Unis ont payé plus que le prix suggéré par le fabricant.
C'est beaucoup, hey, 82, attends
80%,
un peu,
juste pour comparer, en janvier 2021, seulement 3% des gens avaient payé au-dessus du prix suggéré. La surprime moyenne payée aux États-Unis en 2022, en janvier 2022, était de 728$, alors que en janvier 2021, on avait payé en moyenne 2100$ sous le prix suggéré. Donc, c'est vraiment une grosse différence juste là. On voit que vraiment le marché est à l'avantage des vendeurs, définitivement. Au Québec, tu l'as dit, la loi oblige les commerçants à afficher dans leur publicité partout ailleurs le prix final total. Mais ici aussi, on sent que ça démange bien des vendeurs là, de hausser les prix.
Ah, mais là, on a des petites astuces ici.
Écoute,
là.
Les vendeurs sont très créatifs quand vient le temps d'inventer des frais cachés à gauche et à droite. On l'a vu dans l'actualité d'ailleurs au fil des derniers mois. Ouais. Et définitivement, ils ont l'avantage ces jours-ci d'avoir une très forte te demande pour des produits qui sont évidemment offerts.
Alors
très
moi j'ai reçu des courriels de gens qui me disent bon ben j'ai des frais de COVID. C'est quoi ça des frais de COVID?
C'est une excellente question.
C'est l'argent dans les poches du concessionnaire, ça, monsieur.
C'était le nom de famille du directeur général. Mais écoutez, longue histoire courte, si vous magasinez pour une voiture en ce moment, faites attention. On pourrait essayer de vous faire payer plus cher que le prix affiché. Il y a des lois, il y a de la protection pour les consommateurs au Québec. Utilisez-les. Ça peut vous éviter. Ou alors patientez parce que c'est un marché qui va revenir. C'est cyclique, ça va revenir à la normale.
Oui, ça va se replacer. Disons que 2022 va beaucoup être à l'image de 2021. Il ne faut pas s'attendre à de gros progrès cette année, mais je pense et j'espère qu'à partir de 2023, on va retrouver une certaine normalité. Là. Mm-hmm. Mais bon, soyez vigilants et quand il y a des frais qui vous semblent un peu bizarres, contestez.
Posez
des questions. Parce que
personne qui vous oblige d'acheter tant que vous n'avez rien signé. Ça, c'est
et gardez toujours
même
en tête...
Une fois signé, il y a des dispositions, en fait.
Oui, oui. Puis gardez en tête que le gros bout du bâton, c'est toujours vous qui l'avez. Parce que si vous ne voulez pas acheter... Personne ne peut vous vendre. Alors, donc, il faut être vigilant, poser des bonnes questions. Autre sujet intéressant, Lyon ne sera plus le seul à fabriquer des autobus électriques au Québec?
Non, ben on vient d'assister, ou en tout cas, on aurait pu assister si on n'enregistrait pas exactement en même temps que la conférence de presse a lieu, là, au lancement d'un nouveau véhicule électrique, en fait, d'un nouvel autobus électrique québécois. Écoute, les ministres de l'Économie, de l'Innovation, du fédéral et du provincial participaient à la même annonce. C'est donc un signe que c'est quand même
oui, généralement, c'est bon signe.
Et dans ce cas-ci, on parle d'une société de Longueuil qui s'appelle, là, je ne sais pas comment ça se prononce, Letenda. En tout cas, c'est un monsieur Letendre qui a créé ça.
Letendre et Beaulieu, qui sont les deux messieurs derrière ça.
Ouais. Donc, ils ont annoncé le lancement d'une nouvelle gamme d'autobus urbains entièrement électriques. Il y avait aussi à la table le ministre québécois de l'Énergie et des Ressources naturelles,
Jonathan Julien,
ainsi qu'un représentant de Rio Tinto Aluminium, parce qu'évidemment, l'entreprise doit se trouver des partenaires assez importants, parce que Letenda, c'est une start-up qui a ses bureaux dans un petit local à Longueuil, pas très loin du boulevard Tachereau et du pont Jacques-Cartier, et qui a conçu un concept très conceptuel d'autobus électrique de 30 pieds de long appelé Electrip et dont la production devrait se concrétiser au fil des prochains mois grâce entre autres à l'annonce qui a eu lieu ce jeudi et aussi grâce à un partenariat avec le géant industriel américain Cummins qui va fournir tout le groupe électrique qui va être nécessaire pour produire un premier prototype qui va être mis sur la route et qui va être testé en conjointement avec une société de transport là de la région au fil des prochains mois. Le groupe en question, le groupe propulseur électrique, est composé de 3 batteries séparées qui totalisent une capacité de 222 kWh, qui est quand même assez substantielle. Oui. C'est 2,5 fois, même plus, là, ce qu'on trouve dans une voiture, un gros VUS électrique. Cummins ajoute aussi les moteurs, l'électronique, le chargeur, toute la connectique nécessaire pour que tout ça puisse être géré, puisse se déplacer convenablement.
Puis on peut présumer, parce que Rio Tinto est dans le portrait, que le châssis va être en aluminium.
Exactement. Ah. Je pense que c'est assez évident. Il y a définitivement des maillages à faire parce qu'il y a une volonté de créer cette espèce de secteur de la fabrication de véhicules, je veux dire commerciaux, entre guillemets, au Québec. Ah oui. Parce qu'on fera pas de voiture, on fera pas de VUS, on fera pas de pick-up ici, mais on peut faire tout ce qui est derrière ou en tout cas accroché à
oui,
ça.
Oui, on a tout ce qu'il faut. On a l'ingénierie, on a le niveau de l'aluminium qui c'est probablement le moins cher au monde à produire au Québec.
Exact.
On a le génie électrique qui est déjà présent un peu partout. Oui. Effectivement, les ingrédients sont là.
Il y a une masse critique. Tu parlais de Lyon. Il y a aussi New Flyer qui fait des autobus électriques et Novabus aussi sur la région de Montréal. Donc, on sent que... il y a une masse critique en ce moment. Et celui de Tanda. Si vous pouvez aller voir les images sur leur site, ils ont publié une vidéo, ils ont des esquisses. Il y a une belle gueule.
Bon, ouais, une belle gueule.
Ça. 30 pieds, c'est long, là, c'est un gros autobus, donc ça devrait être intéressant. Si on pouvait voir ça, évidemment, ben, moi, dans ma région, je serais très heureux, puisqu'on a un petit déficit de transport quand même, mais n'importe où, à Montréal ou à Québec.
C'est ça. Il s'agit de voir. Bon, évidemment, tout va dépendre du prix, de pénétration de marché, le besoin, tout ça. Mais on tend à aller vers l'électrique, donc on peut penser qu'il y aurait l'avenir. Et on va se tenir au courant, ça sera peut-être des invités d'importance. On va faire quelques téléphones, on va regarder ça peut-être pour la semaine prochaine. Alors moi, de mon côté, la nouvelle qui a fait beaucoup jaser dans le milieu automobile cette semaine, c'est le fameux bateau du groupe Volkswagen qui a pris feu.
C'est rare qu'on parle de bateau dans l'auto, mais là, il y a une
Oui, mais il y avait 4000 voitures du groupe Volkswagen dans le dit bateau qui a brûlé quelque part au large des Açores. Là, on est en train de le remorquer, ou il est peut-être remorqué au moment où on se parle. Les nouvelles sont vraiment sorties au compte-gouttes. Ce qu'on sait, puis là, on y va au conditionnel. Le feu aurait peut-être été déclenché par une batterie de véhicules électriques qui était à bord. Mais les autos ont brûlé. Écoute, le bateau a brûlé pendant 4 jours. Là. Puis là, on n'a pas encore vidé. On ne sait pas au moment où on se parle. Y a-tu 1000 véhicules qui ont brûlé, 2000, 3000? Il y en avait 3965 à bord. Porsche, Bentley, Audi et surtout Lamborghini. Et du lot, il y avait les dernières Lamborghini Aventador, parce qu'on le sait, l'édition Ultima, c'est la dernière. Il n'y en a plus d'autres. Sauf que là, ils ont brûlé, ou en tout cas, on présume qu'ils ont probablement brûlé. On fait quoi? On va falloir relancer la chaîne de production qui n'existe plus, parce que là, tu fais quoi? Ton client a payé, toi?
Mais tu fais quoi avec les parts, disons? Avec ce qui a brûlé, est-ce que ça va être remarqué quelque part?
C'est remarqué, on s'en allait soit au Bahamas ou en Europe au moment où on se parlait, dépendamment d'où il était, parce qu'il était à la dérive pendant quelques jours, parce qu'on a il y avait 22 membres d'équipage qui ont été sauvés, sains et saufs, cela dit, tant mieux. Sauf que le bateau, lui, est parti de son bord.
Ouais.
Et là, on était pour le remorquer selon ce qui était le plus proche. Donc, ouais, on va faire.
Ah oui, c'est ça. D'abord, il y a Calinette quelque part qu'on peut appeler pour ça.
Tout un job pour Calinette, ça, monsieur. Mais là, évidemment, on est à voir exactement ce qui s'est passé. Puis écoute, Volkswagen n'est pas chanceux. Il y a 3 ans, en 2019, il y a un bateau, le Grand America. Il a coulé, littéralement. Il y avait 2000 véhicules du groupe Volkswagen à bord, il a coulé.
Heureusement, leur slogan, c'est Das Auto, ils n'ont pas Das Boat.
Il y a eu le film Das Boat,
c'est ça, exact.
C'est un sous-marin. Mais on a... bon, puis c'est drôle parce qu'il y a 3 ans, en fait, c'est pas drôle, mais il y a 3 ans, il y avait les dernières Porsche GT2 RS qui étaient dans le bateau.
Ah oui.
Et on avait relancé la chaîne de production pour refaire les véhicules pour les clients qui l'avaient commandé. Là, probablement que s'il est arrivé la même chose avec les deux ou trois ou quatre Aventador qu'il y avait à bord, parce que Lamborghini a refusé catégoriquement de dire exactement ce qu'il y avait à bord.
Ouais.
Bon, c'est un bateau qui était à destination des États-Unis. Donc, il y aura probablement pas de clients canadiens, à moins qu'il y en ait quelques-uns, mais ça n'a pas été précisé dans les communiqués. La chose qu'on a par contre dit, c'est que la voiture soit brûlée ou pas, il y a 6 mois de délai. Parce que là, si la voiture a été atteinte, soit par de l'eau parce qu'on les a arrosés parce que le feu était pris, soit par le feu, là, il va falloir faire l'inventaire des dégâts qu'il y a eu, des problèmes, la peinture, tu sais. Fait que ça, il y a plusieurs mois d'enquête. Puis ça va être aussi long si a complètement brûlé, puis il faut vous envoyer un autre. Fait que comptez que si vous avez, par le plus grand des hasards, était un client qui attendait ce véhicule-là, il y a 6 mois de délai, et il y a 350 millions de dollars de véhicules qui ont passé au feu, plus le bateau qui est inutilisable, plus les assurances, plus le remorqueur qui a amené tout ça, plus. Moi, je ne voudrais pas être la personne chez Volkswagen qui aura appelé son assureur
c'est-tu,
Roger? On a encore
problème de bateau.
La bonne nouvelle, il a pas coulé. La mauvaise nouvelle, il a brûlé.
Il a passé. Aïe, aïe, aïe.
C'est comme 2 pertes totales en 3 ans, là. Ouch! Ça fait mal. Et on s'entend que c'est des compagnies comme la Lloyds ou des compagnies de ce genre-là qui assurent, là.
Puis Volkswagen, ils sont pas une tuile près depuis.
Ils ont accumulé pas mal de tuiles, effectivement. Et dans les autres nouvelles intéressantes, parce qu'on est dans le groupe chez Porsche, Volkswagen. Porsche a annoncé qu'elle va investir 720 millions de dollars pour la nouvelle usine de Porsche Boxster et Cayman électrique.
Est-ce que ça va être encore une 718? Parce qu'ils ont raté l'occasion de dire 718 millions pour la 718.
Oui. C'est vrai, ça aurait pu être...
C'est juste
bon,
purement
l'annonce en euros, là. C'était pas... c'était en euros. Ouais. J'ai traduit en dollars canadiens, effectivement. Mais on va pour un... L'idée, c'est que pour un temps, il va y avoir un modèle essence, un modèle électrique qui vont se côtoyer et après ça, on va passer au tout électrique.
Donc, cette volonté d'essence composite dont on parlait avec Porsche...
Non, pour le moment, on parle de 100% électrique. Ça va être le même groupe électrogène que le Macan. Le Macan aussi qui s'en vient en électrique. On annonce 400 km d'autonomie en cycle européen. Donc, on parle d'un 340-50 si on est chanceux ici. Puis ça arrive 2023. Donc, c'est l'an prochain. Nouvel avenir. Hey, on a déjà fait le tour des actualités. On pourrait continuer, mais c'est parce qu'il faut faire d'autres choses dans ce show-là. Alors, on va aller à une petite pause. Puis Benoît Bélan de Auto Hebdo sera avec nous tout de suite après.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, notre premier invité ou notre invité de la semaine, il est de chez Auto Hebdo et il est, attendez que je le dise comme faut, directeur principal marketing de marque chez Auto Hebdo.
Ouais.
Benoît Bélan. Bonjour, Benoît Bélan.
Bonjour, Monsieur Charrette.
Bon, un grand merci d'être là. On vous a invité parce que, bon, vous avez fait pas mal parler de vous autres dans les nouvelles récemment parce qu'Auto Hebdo a sorti un sondage où on confirme que pour la première fois, le prix du véhicule neuf au Canada a dépassé les 50 000 $. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on avait dit qu'il était à 40 000. Ça a pris un saut monumental.
Ouais.
Et le prix du véhicule d'occasion est rendu à 33 240 $ en moyenne au Canada. C'est une hausse par rapport à l'an dernier, là, pas par rapport à il y a 10 ans, l'an dernier, de 34,5%.
Bon. Oui, monsieur.
S'il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au Québec, ça nous coûte un petit peu moins cher. On parle de 45 975 $ pour un véhicule neuf, puis un peu plus de 29 000 $ pour un véhicule d'occasion. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et malgré tout, malgré la hausse du prix de l'essence, malgré le gain qu'on a constamment des véhicules électriques, les gens achètent encore en grande quantité, Benoît Bélan, des véhicules utilitaires sport. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là?
Oui, il y a vraiment un engouement pour le VUS, pour le pick-up. Un autre sondage qu'on faisait là, tout récemment montrait que 48% des propriétaires actuels de voitures sont intéressés, vont probablement acheter un VUS ou, en tout cas, pensent à plus gros pour le prochain véhicule.
Ils pensent à plus gros?
Oui, okay. Pensent à plus gros. Là. Donc, en fait... On a justement posé la question, ben pourquoi?
La PCE était plus généreuse que je pensais? Je pense pas à plus gros pour mon prochain.
C'est pas entièrement faux, parce que les finances des ménages canadiens se sont beaucoup améliorées depuis un an.
Et voilà, monsieur.
OK, parce qu'on fait plus rien.
Il y a un petit peu de ça, effectivement.
Oui. T'en plains ça. Juste, la Banque du Canada a sorti un chiffre assez révélateur récemment, c'est que ils estiment, eux, qu'au Canada, il s'est économisé 100 milliards de dollars de plus pendant la pandémie.
Ah oui! Ben, je prendrais un petit million, moi, je l'ai assez.
Juste un?
Ben, oui. Moi, je suis un homme modeste qui vit de peu
de choses. Acheter un Hummer, ça.
Non, mais la question est très, très, très valable. Hein. Pourquoi les gens veulent plus gros? C'est que il y a ça. Il y a le facteur qu'ils ont plus d'argent discrétionnaire parce qu'on sort plus, on voyage.
Non,
plus.
C'est vrai que
la voiture, ça reste notre échappatoire, hein. La plupart d'entre nous, on travaille en télétravail, on est 24 heures sur 24 dans la maison. Fait que notre auto, ben, on est content de sauter dedans pour aller se balader ou aller dans Laurentides ou
Autrement dit, les voyages, c'est rendu en auto, si je comprends bien. Parce que les gens, c'est vrai qu'on n'a pas été beaucoup aux États-Unis, on a été très peu en Europe, puis on le sait, là, un voyage en famille, on se rend à 12, 15, 20 000 $ assez vite quand on se donne un peu à peine d'y aller, là.
Facile, exactement. Donc, il y a plus Donc, le premier facteur, c'est ça. Le deuxième, c'est que les gens sont de moins en moins intéressés au transport en commun, le covoiturage ou à cause hein, du facteur actuel. On a besoin de notre sécurité. Et donc, tant qu'à s'acheter une voiture ou tant qu'à avoir une voiture, tout aussi bien d'être confortable dedans. Donc, avoir plus d'espace, une hauteur d'assise un peu plus grande. Donc, tu sais, c'est ces facteurs combinés-là qui font qu'aujourd'hui, ben oui, il y a une demande un peu plus forte sur les plus gros véhicules.
Il doit aussi avoir un facteur électrique parce que les véhicules électriques coûtent plus cher à l'achat et on amortit ensuite en faisant pas le plein d'essence. J'imagine qu'il y a un petit peu ça qui fait aussi le prix de vente moyen.
Absolument. Puis il y a un engouement hein, très grand engouement pour les voitures électriques.
Oui, il y a juste pas de très grande disponibilité, mais l'engouement est là. Celles qui sont disponibles coûtent cher. Puis je pense qu'aussi il faut mettre dans l'équation le fait que les compagnies ont à peu près systématiquement éliminé les petits véhicules de la route qui étaient aussi les moins dispendieux, ce qui fait que ce qui reste à acheter. Tu sais, trouver une voiture en bas de 20 000 $ aujourd'hui, là, faut travailler très fort. Il reste que des petites voitures. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce que je trouve intéressant, Benoît Bélan, aussi, c'est la pénurie de micropuces, qui va continuer d'affecter les fabricants là, en 2022. Il faut être bien conscient de ça, là.
Oui, absolument. Cependant, ça sent mieux. Si je peux utiliser
un néologisme.
Ma mère disait que ça s'ameute, mais on est à peu près en même place.
Ouais, OK, bon, ben, ma mère et votre mère, ils se connaissaient, là, parce qu'ils utilisaient à peu près le même terme. Oui, en fait, il y a de la lumière au bout du tunnel. Oui, effectivement, il y a encore cette pénurie-là, mais la chaîne d'approvisionnement est en train de s'enligner, puis on s'attend à ce que au milieu de cette année on soit revenu à des taux de production là normales.
Okay.
Donc le pire est derrière nous là.
Bon, souhaitons-le très honnêtement parce que ça m'a dit comme l'autre ça a passé dur, mais là ce qu'il faut regarder à travers tout ça, là on le sait, on a une offre qui est déséquilibrée par rapport à la demande. Est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on a un moment où on va être capable de rétablir un certain équilibre entre les deux?
En fait, la date, elle est tellement liée à ce phénomène-là actuel de quand est-ce que les fabricants vont revenir à 100% de leur capacité de production.
Ouais.
Ça dépend de l'approvisionnement de ces fameuses micropuces-là. Donc, tout est un peu décalé, là. Donc, si on s'attend à ce que cette production-là de micropuces reprenne normalement au cours de la première moitié de cette année, ben la deuxième moitié de l'année, c'est là où les fabricants vont pouvoir là, ouvrir la machine et se mettre à produire à 100% de leur capacité. Donc, c'est cette année, là, c'est sûr, mais c'est plus vers la fin de cette année.
Bon, pour continuer dans la même lignée, Benoît Bélan, là, les prix sont à la hausse.
Oui.
On le sait que c'est probablement dû, c'est pas probablement, on est en pleine pandémie, les conditions sont absolument anormales ou inhabituelles. Est-ce qu'on peut espérer voir une certaine baisse une fois qu'on aura rétabli la production, qu'on aura retrouvé un équilibre au niveau des concessionnaires? Est-ce qu'on peut penser, parce que là, je me mets dans la peau des gens qui achètent un véhicule en ce moment, qui paient très cher, est-ce que la dépréciation va pas être dangereuse ou en tout cas très élevée parce que quand on va rétablir un certain équilibre, normalement, les prix devraient un peu baisser pour retrouver une certaine normalité.
Ben, il va y avoir cet équilibre-là. Hein. Je veux dire, c'est de l'économie de base. Hein. Quand l'offre et la demande se rééquilibrent, les prix descendent, puis c'est tout à fait normal. Mais quand vous parlez que c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui doit s'acheter une voiture va payer plus cher, mais son échange... Hein, à vaut plus cher aussi, vous le savez.
Ouais, c'est vrai.
Il y a une pénurie aussi de véhicules usagés. Les concessionnaires s'arrachent les véhicules.
Ben,
donc, la dépréciation, elle a vraiment baissé.
Ben, moi, je vois des annonces, des publicités depuis quelques mois maintenant. qui sont des concessionnaires qui s'annoncent pas des véhicules qui en vendent, qui s'annoncent qui veulent acheter votre véhicule. Venez nous voir, on achète vos véhicules. faut manquer de véhicules pour faire des annonces pour en acheter là. Puis je sais, j'ai vendu une voiture récemment qui était à mon père, puis j'ai eu pratiquement le prix qu'il a payé il y a 3 ans. D'occasion.
Et voilà.
Elle avait pas roulé beaucoup, là. Elle avait 15 000 km, mais c'était une voiture que j'ai eu pratiquement le prix de vente.
Là. Mais là, les autos neuves coûtent cher, les maisons coûtent cher, le taux d'intérêt monte, il y a de l'inflation sans bon sens.
Et pour te citer, les bananes coûtent cher.
Les bananes coûtent cher, t'as raison.
Ben oui.
Est-ce qu'il faut, je veux pas être alarmiste, là, mais point de vue finance personnelle, il me semble qu'il faudrait s'inquiéter de vouloir acheter toujours des plus gros VUS, alors que si on regarde dans un horizon de 3-5 ans, l'économie va être vraiment plus compliquée, tout va coûter plus cher.
Non, c'est sûr que cette pression-là, ça crée un déséquilibre qui est vraiment, je vais le dire, c'est néfaste. Là. On s'entend, puis c'est artificiel. Cependant, quand les choses vont redevenir à la normale, ben fondamentalement, cet équilibre-là va revenir. Là. C'est inévitable. Les choses.
J'ai doute que le prix va baisser des véhicules. Je pense que quand on atteint un seuil, c'est rare qu'on revient à l'arrière. Je pense qu'il va falloir trouver d'autres façons.
C'est comme les taxes.
C'est rare qu'on.
Les prix vont être obligés de baisser parce que la demande va aussi baisser. Comprenez-vous? En fait, en ce moment, si les prix ont augmenté, c'est parce qu'il y a une plus forte demande. Vous êtes d'accord?
C'est surtout que l'offre,
c'est une rareté.
Ouais.
Mm-hmm. Ben, en tout cas,
une fois que la rareté est plus là, que là, les consommateurs vont avoir énormément de choix.
Plus de
les fabricants vont se mettre à refaire leurs offres. On en voit de moins en moins en publicité les offres là des fabricants. Il y en a pas beaucoup, mais ils vont se remettre à dans un milieu compétitif beaucoup plus normal et nécessairement ils vont devoir nous attirer nous les consommateurs avec des prix qui vont respecter un peu plus nos notre réalité, là.
En tout cas, chose certaine, Benoît Bélan, les prix à la hausse des véhicules vont favoriser probablement les gens qui veulent acheter électrique, parce que là,
on réduit l'écart.
Là, on arrive à un écart qui va pratiquement devenir insignifiant, surtout si le prix de l'essence continue de monter.
Ben, c'est ça que j'allais dire.
Il y a bien des gens qui vont se dire, ouais, peut-être que 1,80, 1,90, on va-tu se rendre à 2$ cet été? Le grand défi. Alors, rendu là, il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, peut-être que finalement, on va aller vers l'électrique. Ben, en tout cas, merci pour votre temps, Benoît Bélan. C'est très apprécié. Puis quand vous aurez d'autres bons sondages comme ça, tenez-nous au courant. On va en parler.
Ben, ça va me faire plaisir. Merci, M. Charrette, M. McKenna. Bonne journée.
Merci beaucoup. Alors, c'était Benoît Bélan, qui est directeur principal marketing de marque chez Auto Hebdo, qui était avec nous. Nous, on va à la pause et on revient avec notre petite chronique Écolo Auto et nos assurances. Oh oui.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors voilà, déjà, dernier bloc de l'émission. Oui. On va commencer par vous donner la façon de nous écouter, parce qu'il y en a plusieurs. On peut aller du côté des plateformes Google, Spotify, Apple, le groupe C23, le groupe Cogeco, sur le 98.5 FM ici à Montréal. Vous êtes dans la section balado et « Ça tient la route ». On vous invite à vous abonner, c'est la façon la plus simple. Vous recevez les alertes dès que la nouvelle émission est mise en ligne.
Votre téléphone.
Et sur annuelauto.ca, on fait une mise à jour aussi chaque semaine avec les nouvelles émissions. Donc voilà, ça c'est la façon simple de vous abonner à nos balados. Avant d'aller à nos essais routiers, notre petite chronique de la semaine de Écolo Auto, on parle cette semaine de remorquage avec des véhicules électriques parce que la question est souvent posée. Est-ce possible de remorquer avec un véhicule électrique? Oui. Par contre, faut attendre à perdre une bonne partie de son autonomie. Évidemment, quand vous faites du remorquage avec un véhicule à essence, votre consommation d'essence grimpe en flèche. Bon, ben c'est le même principe avec l'électricité.
Ah oui, remorquer comme dans tirer, pas comme dans être remorqué.
Non, remorquer comme dans tirer.
Oui.
En fait, quand les véhicules électriques sont arrivés sur le marché au début des années 2010-11, les premiers, on parlait de la Leaf, la capacité de remorquage était inexistante, là, parce que les batteries étaient trop petites, c'était pas conçu pour ça. Puis là, tranquillement, avec les demandes et surtout le type de véhicule qui est arrivé, là, on va avoir des pick-up électriques. Bon, ben, ouais. Faut que ça tire les pick-up
électriques. Ben, déjà, électrique. Les VUS électriques t'sais, peuvent vraiment
faire les véhicules, les VUS électriques. Aussi, bon, tu sais, on parle de la Audi e-tron et de la Q4 e-tron qui la e-tron peut remorquer 4000 livres. 2000 livres pour la Q4 e-tron. La Ioniq 5 et la EV6 qui s'en vient, que j'ai d'ailleurs la semaine prochaine.
Ah, on va prendre t'en parler. Ça, ouais.
Alors, 1500 et 2000 livres, respectivement, pour les deux modèles. Les modèles Tesla X et Tesla Y remorquent Tesla X 5000 livres, 3500 livres pour le Tesla Y. Donc, ça existe. La nouvelle BMW iX là, qui s'en vient, 5500 livres. Donc, on est dans des poids quand même intéressants.
Ouais.
Polestar 2, t'as 3300 livres. Les camionnettes, on va pouvoir aller, là, on parle Lightning, Rivian, GM, Hummer HV, Hummer EV, 7500 livres jusqu'à 11 000 livres pour le Hummer. Donc, on est dans des capacités de vrais pick-up.
Ah, de camionnettes,
mais effectivement, l'autonomie va en prendre pour son rhume. Ça, c'est normal. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur ecoloauto.com.
Ouais.
Moi, je vais mettre l'article en ligne sur Facebook d'ici à demain.
On pourrait parler éventuellement l'émission des Mété-Légendes du remorquage, parce que les indications de remorquage, ce sont des indications suggérées. Il n'y a pas de loi.
Oui.
Il faut que ce soit bien... Il faut que ce soit sécuritaire, le contexte du remorquage. Ce qui fait la différence du remorquage, c'est la puissance du moteur. C'est la courbe du couple, souvent, qui est le muscle qui permet de tirer une charge.
Exact.
Mais ce qui est sécuritaire, ce qui est dangereux, c'est que la charge affecte le freinage et ces choses-là. C'est vraiment le
voilà, en fait, il faut que l'auto soit organisée en conséquence.
Exact.
C'est pour ça qu'on a souvent des groupes remorquages qu'on peut prendre en option qui augmentent la capacité de remorquage. Parce que le moteur en tant que tel, assez souvent, il est capable
il
de prendre.
Ben oui, c'est ça.
Sauf que si votre arbre de transmission, vos suspensions, l'alternateur et tout ne suivent pas.
Vous pliez le châssis parce que c'est
bon,
ça.
Bon, ben, c'est ça.
Et
si vous faites une manœuvre d'urgence puis vous tirez plus lourd que le véhicule, devinez ce qui va arriver. Alors, c'est ça. Donc, il faut juste être logique. Mm-hmm. Mais, l'article est bien fait. Je le mettrai sur Facebook cette semaine. Alain, parle-nous de ton essai routier, toi.
Ben, écoute, si c'était un texte dans un annuel, par exemple, il y aurait un titre et ce serait un petit dernier pour la route. Parce que, ça, c'est une boutade qu'on entendait à une autre époque dans les soirées familiales où on proposait la visite. Je veux dire, un dernier petit café, ou dans certaines familles, quelque chose de moins recommandable.
Ou à une certaine époque.
Ouais. Bon,
dernière petite bière pour la route.
Un petit dernier à siroter avant d'enfiler bottes et manteaux et prendre le volant pour le retour à la maison. Un petit dernier pour la route, donc, c'est un peu aussi la phrase qui m'est venue à l'esprit alors que je conduisais le X3 M40i de BMW plus tôt cet hiver. Si on fait abstraction des véhicules électriques, le X3 est probablement le VUS compact de luxe que, personnellement, je préfère le plus. Au fil des ans, ça a été, à mon avis, un des meilleurs compromis entre l'utilité d'un VUS, le fameux plaisir de conduire très allemand.
Et il y a un format qui est intéressant. Il est pas trop gros, mais il est assez gros. Je veux dire, on est capable de mettre ce qu'on a besoin pour la famille, puis ça reste un véhicule très plaisant à conduire. Moi, quand j'ai pas l'impression de conduire un VUS, je suis heureux.
C'est un gros plus. Non, effectivement. L'édition 2022 du X3, bon, il part évidemment un peu de sa superbe, étant donné que la transition électrique rend des modèles concurrents, puis évidemment, il y a le Tesla modèle Y écrit partout là-dessus, là.
Oui.
Un peu plus attrayant, mais BMW tente un compromis intéressant sur le capot de la version M40i du VUS X3. Les ingénieurs ont ajouté un groupe électrique très modeste, un 48 volts,
ouais,
au 6 cylindres turbo de 3 litres, qu'on trouve d'ailleurs ailleurs dans la gamme de BMW. C'est pas un,
c'est, ouais, pas c'est un peu le moteur à tout faire là, chez BMW.
Ça fait passer la puissance totale à 382 chevaux et le couple à 369 livres-pieds. Tout ça est transmis aux roues via une boîte automatique à 8 rapports qui, on va le dire, est extrêmement douce quand elle a besoin d'être douce, extrêmement nerveuse quand elle a besoin d'être nerveuse, parce que, évidemment, et comme tout le reste de la mécanique, on peut en modifier le comportement à partir des touches de commande logées juste à côté du levier de transmission sur la console.
Et il faut admettre que chez BMW, la cartographie est extrêmement efficace et bien faite parce que le mode sport, c'est un vrai mode sport. Il y a des compagnies où tu mets en mode sport, tu dis OK, c'est juste un bouton, parce qu'il s'est rien passé
pas
nulle part. Mais chez BMW, quand t'es en mode sport ou en mode sport plus.
On peut se moquer tant qu'on veut des ingénieurs allemands parce qu'ils sont très têtus, ils sont très entêtés, ils sont,
t'sais, oui, mais c'est probablement pour ça que ça marche.
Ben, c'est ça. Bref, ça donne un VUS au comportement pas mal plus doux et raffiné que le X3 de base. Ou à l'inverse, plus performant aussi. L'X3 de base, je le rappelle, est animé par un 4 cylindres turbo qui est excellent, mais qui est peut-être un peu moins...
Il fait le travail.
Exactement.
Mais il est moins nerveux, il est moins dynamique.
Parce qu'on le sait, BMW, sa tradition, son excellence, c'est dans les 6 cylindres. Et quand on a besoin de puissance, évidemment, on en a avec le 6 cylindres du X3 M40. Le chrono au 0 à 100 km/h est de 4,2 secondes.
Ouais.
Pour une voiture qui est quand même pas extrêmement exotique, donc c'est quand même pas mal. Et ça se traduit aussi par des reprises, là, le fameux 80-120 km/h sur l'autoroute.
Oui, qui est très rapide. Ouais. Et t'as probablement remarqué, la consommation en autoroute est très basse.
Exactement.
Sur ce modèle-là.
Exactement. Oui, et aussi un petit peu en ville. Le groupe électrique permet de couper l'alimentation du moteur thermique à l'arrêt, ce qui est toujours un plus. Bon, évidemment, c'est marginal comme impact sur la consommation, le groupe électrique exclusivement, mais dans l'ensemble, c'est comme tu le dis, ça a été bien rodé. Le VUS parvient à proposer une conduite qui, à mon avis, incarne ce à quoi on doit s'attendre quand on prend le volant de véhicule de luxe. Sans être gourmand, parce que souvent on pense au luxe, on pense à l'excédent, ou en tout cas la décadence ou une certaine forme d'exagération. Et dans ce cas-ci, pour la semaine d'essai que j'ai fait, qui était très très mélangée de conduite en ville et en banlieue, donc en boulevard et en autoroute, j'ai eu une consommation moyenne de 10,5 litres au 100 km. 10,5, c'est ce que j'ai dit, qui est dans le contexte
l'hiver,
tout à fait respectable.
Tout à fait,
l'hiver en plus, exactement.
Avec 382 chevaux, là, c'est plus
les enfants, cette semaine-là aussi, on fait beaucoup de voyagements à 5, donc je pense que c'est tout à fait respectable. Écoute, à bord, parlant de ça, BMW ne déroge pas à son habitude. On trouve beaucoup de cuir, des moulures en métal brossé plutôt que du faux bois. C'est très BMW, on s'entend. C'est une question de goût. Là, ça peut sembler même un peu froid.
En fait, j'aime mieux le métal brossé que le faux bois.
Que le faux bois,
mettez-moi du vrai bois ou mettez-moi pas de bois. Parce que du faux bois, t'as beau en mettre toutes les sortes que tu veux, c'est toujours laid.
Et le plastique imite bien le faux métal, disons-le comme ça. Plus concrètement, c'est très ergonomique. Tout se trouve à portée de la main. Et sérieusement, c'est hyper réussi à ce niveau-là. Le système iDrive, le système multimédia intègre aussi.
C'est beaucoup amélioré.
Ah, écoute, c'est le jour et la nuit par rapport aux premières générations.
Parce que les premières générations, notre sacré fou. Après ça.
Il y a aussi Android Auto et CarPlay sans fil dans le système. Donc, c'est encore mieux pour ça parce qu'on utilise pleinement l'espèce d'écran très horizontal, exactement.
Oui.
Le X3 M40i est vraiment un VUS de référence dans le créneau des compacts de luxe. Écoute, tu lis dans mes pensées parce que tu fais un signe là que je reconnais.
Oui, un signe de dollar.
Un signe de pièce.
Combien ça coûte cette chose?
Ce véhicule souffre de ce défaut qui est très énorme, son prix de détail, qui est de 96 000 $. Ce qui n'a aucune espèce de bon sens. C'est évidemment un bon moyen de limiter la présence sur les routes. On s'entend que ça crée, par la force des choses, une certaine exclusivité.
J'allais avoir un modèle unique.
Mais c'est dommage parce qu'à ce prix-là, on peut aller acheter un modèle Y chez Tesla et ne plus avoir à se soucier du prix de l'essence et d'un paquet d'autres affaires. Et on perd pas tant que ça sur la performance et le plaisir de conduire.
Non, c'est vrai, c'est cher. C'est cher, c'est cher. Et les Allemands ont ce grand défaut parce que c'est pas exclusif à BMW, Mercedes et Porsche dans les modèles de luxe et Audi vont arriver à des prix très semblables. Et on le sait. Et c'est pour ça que quand BMW sort un modèle, on vise en général un modèle équivalent ailleurs qui va se vendre au dollar près la même chose.
Oui.
Et c'est très rare qu'on va voir des amateurs de véhicules allemands sortir du giron allemand. On va peut-être passer d'un Mercedes à une BMW ou de BMW à Audi.
Mm-hmm.
Mais c'est rare qu'on... Écoutez, combien de fois, moi, j'ai dit à des gens, fiabilité, va voir un Lexus. Ah là là, on a un Lexus. Tu ne me pogneras pas vivant d'un Lexus. Mais il y a l'image qui va avec ça et les gens sont prêts à payer ce prix-là. Et c'est pour ça que ça se vend même à ce prix-là. Mais c'est une sacrée machine. Mais à 96 000, là, monsieur, c'est
tout sauf abordable, effectivement.
C'est ça. Mais ça... Oui, on parle de taxes et préparations en su, évidemment. Là. Ça revient très cher. Moi, je suis dans quelque chose qui m'a bien impressionné, que j'avais déjà essayé, mais en conditions hivernales.
Je veux dire, il y a une affaire sur ce véhicule qui m'impressionne, je te le dirai tantôt.
D'accord.
C'est un détail.
Lincoln Corsair,
ouais.
Grand Touring, parce que les modèles Grand Touring, c'est les modèles hybrides branchables. On l'a avec le Aviator, mm-hmm. on l'a avec le Corsair. Il y a un moteur 2.5 litres qui a rien d'excitant. Avec une paire de moteurs électriques,
mm-hmm.
on a 266 chevaux, puis on peut faire à peu près 40 km quand il fait beau.
Électrique.
L'autonomie électrique est à peu près de 40 km. à mon avis, se passer.
C'est une affaire trop.
D'ailleurs, j'ai fait un texte sur annuelauto.ca. J'invite les gens à aller voir ça cette semaine. Puis c'est mon opinion personnelle.
Réflexion sur l'autonomie nécessaire.
Exact.
Oui,
pourquoi
point.
Les véhicules étaient... Bon, pourquoi? On le sait pourquoi. Parce qu'en 2012, la Californie a émis une réglementation aux 6 plus gros constructeurs au fait que s'il n'y en a pas un véhicule qui avait au moins 20 km de 20 000, parce qu'on est aux États-Unis, 20 000 d'autonomie, ils ne pourraient pas vendre les autres véhicules.
Mm-hmm.
Fait qu'on a fait ce qu'on appelle une voiture de conformité. On s'est dit, voilà, vous avez vos 20 000. On ajoute 10 000 $ au prix du véhicule, mais il était tout à fait inintéressant. Puis, en fait, les compagnons ne voulaient même pas en vendre.
Ouais.
Mais si la Californie avait dit, au lieu de 20 000, 60 000, si on avait dit, là, si vous n'avez pas un véhicule qui a 100 km d'autonomie, vous ne pourrez pas vendre, là, les compagnies auraient chiolé. Mais on l'aurait produit.
Ben, la Chevrolet Volt, à l'époque, avait déjà en partant 65 km environ.
62.
60, ouais, qui était comme...
85 dans sa deuxième technologie.
Exact.
Mais
ça,
c'est
le seuil raisonnable qui avait le plus de bon sens.
Ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a 10 ans, les véhicules hybrides branchables avaient 30 km. Et 10 ans plus tard, il y a encore 30 km.
Ouais.
Pourquoi?
Pourquoi?
Dans le même espace de batterie, mm-hmm. on peut multiplier par 3 l'autonomie qu'on a depuis 10 ans. Donc, le 30 km devrait être un 90 aujourd'hui sans prendre plus d'espace.
Quelqu'un a été paresseux.
Quelqu'un n'a pas voulu, tout simplement,
ouais,
en vendre.
Voilà.
Mais je trouve ça triste parce que avec 40 km, l'hiver, on est à 28, 27. Là, c'est ça que j'ai fait cette semaine.
Ouais.
Bon, tu vas au coin de la rue puis tu reviens puis tu n'as plus de jus.
Tu n'as pas une journée de travail.
Alors, est-ce que je dis à quelqu'un, achetez-vous ce véhicule-là? C'est cher payé pour un PHEV avec si peu d'autonomie. Cela dit, le véhicule va très bien. Bon, c'est pas donné. On part à peu près à 56 000 $ pour le Corsair. Et si vous jouez dans les options, comme le modèle qu'on a en essai, on est plus proche du 70.
C'est le plus petit des VUS Lincoln, le Corsair.
C'est le plus petit des VUS Lincoln, effectivement.
Ouais, ça revient quand même assez cher.
Donc, c'est pas donné.
Mm-hmm.
Cela dit... extrêmement confortable. Je dirais là que c'est tout à fait comparable en conduite à ce qu'on retrouve du côté européen.
Mm-hmm.
Et est-ce que je... Écoutez, j'hésite beaucoup parce que la batterie fait 14,4 kWh. Donc, c'est raisonnable. On pourrait avoir plus. Moi, ce qui me manque, c'est l'autonomie.
Ben voilà.
Il n'y a
ben
pas
oui.
assez d'autonomie pour que je puisse recommander ce modèle-là. À tout prendre, payer moins cher, restez-vous un 2 litres turbo. Puis vous allez être parfaitement heureux. Il y a même un 2,3 litres turbo à 280 chevaux que j'ai roulé l'an dernier.
Mais le kit hybride branchable ne doit pas être bien long en termes de...
Il est à 64 km, le hybride, ce qui est déjà mieux.
Mm-hmm.
Rendu là, parce que moi, l'idée, c'est de dire, je peux faire les commissions autour de la maison, je peux aller travailler, je peux rayonner dans
ouais.
ce que je fais dans ma semaine en électrique, puis si j'ai allé plus loin... Le moteur va embarquer, le moteur évidemment à combustion, et là on pourra. Mais si t'es même pas capable de rayonner auto puis faire ton quotidien, ben non, ben achète-les pas.
Ça vaut moins
tu vas perdre ton
ben
temps
oui.
parce que l'argent que tu dépenses en plus vaudra pas la peine.
Je vais aller plus loin. La plupart des gens qui ont un hybride branchable ne le branchent pas nécessairement souvent.
Ben c'est, regarde, moi cette semaine avec si peu d'autonomie là, je l'ai laissé pas brancher la moitié de la semaine. Il faut que ça vienne un réflexe. Sauf que si t'arrives à une centaine de kilomètres puis que tu mets de l'essence, mettons, une fois par mois ou même une fois au mois et demi,
mm-hmm.
ben là, ça commence à être intéressant.
Ouais.
Cela dit, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un Lincoln Corsair? Oui. Modèle intéressant, confortable, bien fait. Puis dis-moi donc, est-ce que t'aimais, toi, là-dedans?
Ben, l'habitacle m'a jeté à l'envers. En fait, c'est le cuir des sièges.
Oui.
Écoute, c'est une...
Le cuir et l'ergonomie. T'as-tu
Lincoln,
remarqué?
Lincoln, c'est une vieille marque. Oui, exactement. Oui. C'est ça. Ça rappelait les vieux sièges des Lincoln des années 60-70.
L'avant est séparé en deux pour mm-hmm. chaque jambe. Tu sais, tu regardes ça vite de même, ça a l'air un peu. Puis une fois assis, tu dis, hey. Bonne idée.
J'ai beaucoup aimé le côté vintage de la finition, surtout avec l'espèce de cuir piqué.
Ben non, puis on a réussi du côté de Lincoln à se démarquer de Ford, ce qui a été un gros problème pendant des années. Là, on a un vrai Lincoln. Et bon, évidemment, en mode, en utilisant l'autonomie électrique, on arrive à faire du 3-4 litres au 100 si on l'utilise intelligemment. Vous allez avoir mieux l'été. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui fait du très, très bon travail, que j'ai bien aimé, que je recommande fortement, mais je lance un mot à Lincoln. Amenez donc votre autonomie à 75, ouais. 80, 100 km. Moi, je suis convaincu qu'on vendrait beaucoup plus avec des autonomies comme ça. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci à Claude Hébert qui était avec nous derrière la console, Alain
oui,
Mekena.
Merci,
et on se retrouve la semaine prochaine.
Salut.
Salut.
Tout le monde.
C'est 23.